Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui aujourd'hui sera un nouveau parcours libriste. Il s'agit du 5e épisode de ce format qu'on a inauguré lors de la précédente saison de Libre à vous. L'idée étant d'inviter une seule personne pour parler avec elle de son parcours personnel et professionnel, un parcours individuel qui va bien sûr être l'occasion de partager messages, suggestions et autres. Notre invité du jour est Laurent Costi, vice-président de l'April et chroniqueur pour Libre à vous. Nous avons justement entendu en début de l'émission la chronique à cœur vaillant La Voix est libre, qu'il fait chaque mois avec sa fille Laurette. Pour cet échange avec Laurent, nous avons le plaisir de l'avoir au studio avec nous. Bonjour Laurent.
Bonjour à tous et à toutes.
N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à la mission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Sur le site de l'April, nous avons un trombinoscope où les membres qui le souhaitent peuvent apparaître et afficher une courte bio. Laurent Costi étant administrateur de l'April, plus précisément vice-président, il n'a pas le choix, il doit forcément y apparaître. Je vous lis ce qu'il écrit pour se présenter. J'ai souhaité rejoindre l'April pour apporter mon expérience en milieu associatif et contribuer au développement de l'utilisation des logiciels libres dans les associations, dont les valeurs sont en général très proches de celles qu'on retrouve dans le libre. En particulier en ce qui concerne l'éducation populaire. Je suis donc actif sous le groupe de travail Libre Association. Donc, tu parles de mon expérience en milieu associatif. Donc, je pense que on peut partir de là. Qu'est-ce que tu as souhaité apporter à l'April et comment tu as recueilli cette expérience ?
Disons que je ne peux apporter d'expérience que sur des questions associatives, car je n'ai travaillé qu'en milieu associatif depuis le début de ma carrière professionnelle, donc ce serait difficile de faire autrement en fait. Mais oui, effectivement, c'est une question qui a jailli au fil de mon expérience, au début de ma carrière professionnelle.
Tu as commencé à quel âge? La carrière associative.
La carrière associative. J'ai fait une objection de conscience. Ça existait encore à l'époque, hein. Donc, j'ai commencé mon objection de conscience en 96. Donc, on peut dire que ma carrière professionnelle a commencé à ce moment-là, parce que je faisais partie des dernières personnes sous ce régime-là. Et puis, j'ai rejoint une association qui s'appelait qui s'appelait encore ANSTJ, Association Nationale Sciences Techniques Jeunesse à l'époque, et qui est devenue depuis Planète Science, dont l'objet était de promouvoir la culture scientifique et technique auprès des jeunes, qu'elle continue à faire d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est pendant cette période-là, durant laquelle je suis resté une dizaine d'années, que j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à cette question de l'informatique libre, parce que je découvrais que on commençait déjà à être, asservi à des outils qui nous étaient imposés, quoi.
Tu peux faire un exemple ?
Oui, enfin, alors là, du coup, je vais dire un peu ce qui a déclenché, moi, chez moi, cette envie d'aller un peu plus loin que de simples questions. Mais à l'époque, on utilisait un logiciel de comptabilité qui s'appelait Ciel, je crois. Et on n'avait pas pris, me semble-t-il, le support. Il fallait payer un montant supplémentaire pour pouvoir avoir le support, l'appui. Et un jour, on a rencontré un souci. Et du coup, on a appelé quand même l'éditeur du logiciel, qui nous a répondu que comme on n'avait pas payé le support, il ne pouvait pas répondre à la question. Ils nous ont dit, il faut payer les 100 euros pour qu'on puisse répondre à la question. Je trouvais que ça faisait cher la question, d'une part. Et puis surtout, quelques temps après, on s'est aperçu que c'était bien un bug du logiciel, et non pas un problème de notre côté, qui faisait que ça ne fonctionnait pas, quoi. Donc on devait payer, finalement, pour améliorer leur logiciel, auquel, finalement, la contribution n'était pas partagée. Donc, c'est un petit peu ça, je pense, qui m'a vraiment engagé sur le chemin du logiciel libre et qui fait que je suis encore vice-président de l'April aujourd'hui, quoi.
Et tu l'as trouvé comment, ce logiciel libre ? Ce sont des personnes, c'est des recherches sur Internet, c'est des conférences auxquelles tu as assisté ?
Oui, alors à l'époque, l'écosystème du logiciel libre était, je pense, alors quand je dis l'époque, hein, c'était début des années 2000 finalement, hein, l'April étant née en 1996, une des associations pionnières, mais début des années 2000, l'écosystème était encore relativement restreint, je pense. Il y avait l'AFUL, je pense que j'avais commencé à adhérer à l'AFUL, donc Association Française des Utilisateurs de Logiciels Libres. Alors, sans doute, justement, sur des questions d'éducation populaire, j'ai dû me rapprocher de Jean-Christophe Becquet, qui a été président de l'April, et qui, lui aussi, avait un pied dans l'éducation populaire, puisqu'il travaillait à la Ligue de l'Enseignement à l'époque dans le sud de la France. Et donc, c'est sans doute par ce biais-là que j'ai rejoint, que j'ai commencé à appréhender l'April, et puis que, tout doucement, j'ai rejoint l'April.
Vous étiez géographiquement voisin ou vous êtes rencontrés comment ? Parce que
peut-être dans les premières réunions à l'April, et c'est là que ça a matché, je pense. Hein. Enfin, j'essaye de me souvenir. C'est vieux.
C'est vieux, hein. C'est vieux. Non, c'est pas si vieux que ça. Allez.
Donc, mais voilà, il y a dû avoir une conjonction éducation populaire April qui a fait que ça a accroché, quoi.
Alors, à propos de l'éducation populaire, bien évidemment, c'est un sujet qu'on a abordé à plusieurs reprises dans notre émission. Je voulais savoir qu'est-ce que c'est pour toi l'éducation populaire, parce que je sais qu'on peut lui donner plein de définitions différentes. Et en fait, en Italie, moi je viens d'Italie, il n'existe pas cette expression en tant que telle. Donc j'ai mis du temps à comprendre qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que c'est pour toi.
J'ai encore pas complètement compris après 30-40 ans. Non, alors c'est vrai que ça reste compliqué à expliquer simplement. Et donc ça, c'est pas bien parce que ça aide pas les gens à comprendre. Je me suis dit, je vais prendre quelques citations de gens qui ont vraiment réfléchi à la question de l'éducation populaire. Comme ça, ce sera plus simple, plus clair que mes propos, ou parfois, des fois, je m'en mêle dans mes phrases. Donc, il y avait Françoise Tétard, qui a été une historienne de l'éducation populaire, qui est décédée au début des années 2010, qui justement expliquait que l'éducation populaire est par définition indéfinissable. Mais c'est un ressenti partagé. Donc au moins, tout le monde est d'accord pour se dire que c'est compliqué. C'est déjà ça.
Enfin, j'étais pas folle. C'était...
voilà, c'est vrai. Ça. Et elle précise après, l'éducation populaire est née plusieurs fois depuis un siècle. L'éducation populaire a été définie de différentes manières à chaque période de l'histoire. De plus, elle n'a pas toujours signifié la même chose au cours d'une même période. C'est comme si elle était adaptable, malléable à chaque pensée politique, à chaque vision du monde, à chaque courant pédagogique. L'éducation populaire, un terme valise, c'est d'abord et surtout un discours venant qualifier des pratiques de militants qui ont fait des choses ensemble et qui souhaitent se mettre sous une même bannière. Et c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les gens qui se retrouvent pour se dire, mais en fait, on converge sur la manière d'avancer, sur la manière de former les gens. Et évidemment, il y a une notion de formation qui est extrêmement importante dans l'éducation populaire.
C'est finalement cette définition qui te convient le plus, ou tu en as d'autres?
Alors,
que tu veux lire?
Ça, c'est une bonne définition quelque part. Donc du coup, je vais.
Vas-y.
Je vais vous en donner.
Avec plaisir.
Ce qui m'intéressait, c'était de citer aussi Hugues Bazin, parce que du coup, il y a aussi cette logique de ceux qui s'en revendiquent. Et qui n'ont pas forcément, par exemple, l'agrément éducation populaire qui est une reconnaissance de l'État finalement, et puis les associations que j'appelle vénérables qui sont éducation populaire depuis très longtemps. Donc je vais citer Hugues Bazin, puis j'expliciterai un tout petit peu après. D'un côté, il y a ceux qui parlent de l'éducation populaire et n'en font plus vraiment, et de l'autre, ceux qui ne s'en revendiquent pas, mais la pratiquent effectivement. À l'évidence, et c'est là le paradoxe, nous assistons à un renouveau de l'engagement militant, des nouvelles formes créatives d'innovation sociale et artistique à travers l'émergence d'une génération d'associations plus sous la forme de réseaux que de fédérations. C'est vrai que l'âge d'or de l'éducation populaire, ça a été les grandes fédérations d'éducation populaire. Elles ont encore des choses à dire, elles ont encore des choses à faire, mais ça fait contraste parfois avec des structures qui ne veulent pas entrer dans des logiques fédératives, par exemple. On peut prendre un exemple extrêmement concret qui est celui de Framasoft, hein, qui se revendique de l'éducation populaire, qui avait demandé l'agrément éducation populaire jusqu'à il y a pas longtemps, qui font de l'éducation populaire quotidiennement, mais qui finalement, ont refusé de signer
l'agrément.
Ça va me revenir. Ou il y a peut-être quelqu'un dans le chat qui le mettra. Mais la charte que le gouvernement voulait mettre en place vis-à-vis des associations, qui intimait l'ordre aux associations de ne pas maltraiter le drapeau français. Enfin, je caricature évidemment la charte, mais vous aurez compris que Framasoft n'avait pas envie de s'engager dans quelque chose qui était mal écrit, mal défini, et donc du coup, de fait, perdait cet agrément d'éducation populaire, mais certainement pas leur action quotidienne d'action d'éducation populaire. Donc voilà, c'est un petit peu tous ces contrastes-là qu'on peut voir se croiser au sein des mouvements, au sein des fédérations qui sont plus anciennes. Mais c'est pour ça que c'est toujours aussi en renouvellement et qu'il y a toujours de plus en plus d'acteurs qui s'en revendiquent.
Merci. Tu disais que dans ta présentation sur le trombinoscope de l'April, que les associations ont des valeurs en général très proches de ce qu'on le retrouve dans le livre. Ça semble évident, mais c'est bien de les rappeler, ou bien
Oui, alors du coup, je vais conclure en donnant une définition qui va faire lien. Mais non, mais du coup, c'est parfait, c'est une merveilleuse transition. Je vais conclure avec une citation de Marie-Jo Monzin, justement, qui fait lien, ou dans cette définition de l'éducation populaire, qui est une vraie définition, enfin qui est en tout cas pas une non-définition, on fait lien avec le logiciel libre. Elle dit « L'éducation populaire fut pensée par ceux qui voulaient véritablement l'émancipation du peuple grâce à la circulation libre des signes et des idées. » Et c'est là qu'évidemment on rejoint le logiciel libre, grâce au partage patient du temps qu'il faut pour parler, pour penser et pour créer. Donc là, on n'était pas dans cette logique de numérique, mais fondamentalement, cette définition-là, elle rejoint bien toute la question que les communautés libristes défendent au quotidien. Et elle rejoint bien tout ce que font les associations d'éducation populaire.
Entre-temps, effectivement, la réponse à notre question est arrivée sur le chat. C'était la charte de laïcité obligatoire pour toutes les associations subventionnées. Donc, tu avais dit charte, effectivement.
Oui, c'est le CER, même. C'est même le contrat d'engagement républicain. Ça y est, ça me revient.
Okay.
C'est le contrat d'engagement républicain.
Contrat d'engagement républicain.
Voilà.
Tu disais que tu as fait partie, tu as milité pendant 10 ans, tu as fait partie pendant 10 ans de cette association qui était plutôt une association d'éducation populaire autour de la science.
Oui.
C'est parce que tu avais fait une formation scientifique?
Oui, je me destinais plutôt à être enseignant de physique-chimie. J'avais passé une licence de physique-chimie à l'époque et j'ai passé le CAPES. J'ai passé le PLP2 aussi pour être enseignant en lycée technique à l'époque. Et puis, en fait, est venu bousculer un peu tout ça, tout ce projet-là, ma rencontre avec Planète Science. Qui m'a encouragé à faire cette objection de conscience, et effectivement je me suis bien éclaté. C'était extrêmement extrêmement jubilatoire d'aller dans les écoles, de faire des projets de fusées, de ballons expérimentaux avec les jeunes, avec les enseignants, et c'est vrai que du coup j'y suis resté une dizaine d'années, quoi, et un peu mis de côté ce projet d'enseignement.
Sans regret?
Non, sans regret, parce que finalement, dans l'éducation populaire, on fait énormément de formations aussi, on accompagne énormément les gens, de manière parfois moins lourde, avec le système moins pesant que peuvent avoir les enseignants dans le cadre scolaire, quoi. Et puis parfois le mépris aussi, on l'a vu ces derniers temps, ce qui s'est passé à l'échelon ministériel, quoi. Donc oui, on est quand même un peu plus libre.
Après Planète Science, tu as quitté Planète Science, tu as migré vers où?
je suis allé en Bourgogne-Franche-Comté parce que j'ai postulé pour être délégué régional des maisons des jeunes et de la culture en Bourgogne-Franche-Comté. Alors c'était un métier qui consistait à soutenir les MJC sur le territoire dans leurs projets, pour leurs projets associatifs, en lien, enfin pour les soutenir aussi vis-à-vis des partenaires locaux, vis-à-vis des mairies qui subventionnent les postes de directeur de MJC, enfin qui subventionne toujours pour la majorité. Voilà, donc je parcourais les routes, et puis du coup c'était aussi une occasion, j'en ai profité aussi évidemment pour essayer de faire passer des messages sur les systèmes d'information dans les MJC, à l'échelon fédéral, et puis aussi dans le monde interassociatif. Je sais pas si c'est maintenant qu'on en parle, mais à cette occasion-là, donc j'ai été président du CRAJEP de Bourgogne-Franche-Comté. Alors je vais expliquer l'acronyme parce que ça doit pas parler à tout le monde. Donc c'est le comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire. On revient à l'éducation populaire. Donc évidemment, c'est à l'échelon régional, mais il y a aussi un échelon national, le CNAJEP. Mais en tout cas, à cet échelon régional, disons, tout a convergé pour qu'on puisse, entre les membres, pour qu'on puisse mettre en place un projet qui s'est appelé Bénévat Libre, projet de logiciel libre pour faciliter la valorisation du bénévolat dans les associations. Pour la faire très courte, souvent quand on rencontre des financeurs, en particulier à l'échelon local, la mairie par exemple, elle dit « Ah bah c'est nous qui vous subventionnons à 80%, c'est pas normal, il faut diversifier vos financements, etc. » Or, si on oublie de valoriser le bénévolat, de dire « Mais attendez, vous apportez une part financière, mais l'association apporte une quantité de alors, travail, je le mets entre guillemets, surtout c'est vraiment des grosses guillemets pour pas faire un parallèle entre le travail et le bénévolat, parce que ça, ce serait une mauvaise chose. Mais en tout cas, on apporte quelque chose, une richesse sur ce territoire-là qui est complètement, qui passe complètement à la trappe si on ne la valorise pas. Donc certaines associations le faisaient un peu au doigt mouillé, il y en a d'autres qui le faisaient bien, mais on a convergé pour dire que s'il y avait un outil qui permettait de simplifier ça, ce serait pertinent. Et finalement, dans le cadre du CRAJEP, Bénévent Libre est donc né en 2018, je crois, et puis continue à être mis à disposition gratuitement des associations, évidemment à l'échelon de la Bourgogne et de la Franche-Comté, mais de tout le territoire, puisque n'importe quelle association peut accéder à la plateforme, qui, de surcroît, a été développée par une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle CLIS21, qui développe pratiquement exclusivement du logiciel libre et qui maintient le logiciel. Donc en fait là on a eu un très très bon exemple, un très très beau projet en commun, parce que ça aussi j'y tiens beaucoup, où chacun a pu exprimer son besoin, définir le cahier des charges, et puis qui a fait que finalement chaque membre s'est senti concerné par le projet et a donc pu le faire connaître dans son propre réseau et puis avoir envie de le faire changer d'échelle. C'est pour ça qu'au départ, si c'était en Bourgogne-Franche-Comté, on est monté à l'échelon national et que le CNAJEP et le mouvement associatif à l'échelon national relaient ce projet parce qu'il est pertinent pour l'ensemble du territoire, quoi.
D'ailleurs, le comité de pilotage du projet, en fait, s'est élargi au fur et à mesure, parce que c'était un comité ouvert.
Oui, alors le mode de fonctionnement, c'est vrai qu'il s'est fait de manière très très naturelle. Les gens rentrent, sortent dans le comité, et puis pour l'instant ça fonctionne. Donc ça, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Alors on pourra renvoyer les personnes qui nous écoutent vers les cahiers de l'animation 61 que l'INJEP produit. Alors l'INJEP, c'est l'Institut National Jeunesse Éducation Populaire, encore l'éducation populaire. Dedans, dans le cahier numéro 60, il y a tout un article justement qui explique la genèse du projet et comment on est vraiment dans un commun numérique. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant dans ce projet-là, quoi. Voilà.
Et tu parlais d'éducation populaire, juste pour dire que CLIS21, en plus d'être une coopérative spécialisée dans le logiciel libre, fait aussi des actions d'éducation populaire, des install-parties, des fêtes d'installation, des conférences, etc. Donc c'est vraiment tout l'environnement qui était
complètement
adhérent.
Oui. Il y a des textes très militants et très intéressants sur le site de CLIS21. Oui.
Et tout à fait. Tu dis toujours dans ta présentation sur ton binoscope, tu es actif sur le groupe de travail Libre Association. Tu veux peut-être nous en dire quelques mots?
Oui, alors c'est effectivement ce qui me motivait quand je suis arrivé à l'April, de pouvoir justement faire circuler l'information entre des associations qui avaient des expériences sur tel ou tel logiciel libre et qui pouvaient conseiller, recommander d'autres associations qui étaient en transition pour justement aller vers un numérique plus éthique. L'outil essentiel, c'était une liste mail, finalement, où les gens posaient des questions, échangeaient, faisaient part des manifestations, complémentairement à l'agenda du libre. Peut-être qu'on en parlera un peu plus. Mais voilà, c'était très spécifiquement orienté sur la question associative. Alors, pour être tout à fait transparent, je dirais que le groupe, là, le nombre de mails sur la liste a beaucoup baissé ces deux dernières années. Bon, le Covid est passé par là. Mais toute cette question-là, elle évolue dans l'écosystème libriste. Je pense que tout le bon travail que fait Framasoft autour de ça fait que les choses se déplacent, les besoins sont différents. Je pense au projet Emancipasso que Framasoft est en train de mettre en place, qui vont pas tarder à lancer, je crois. Donc voilà, on va réfléchir à voir comment éventuellement faire se rejoindre les projets, si c'est pertinent ou pas, etc. quoi. Mais voilà. On avait produit en 2007-2008 un questionnaire. Il y avait à peu près 500 associations qui avaient répondu. Alors c'est vrai que maintenant le questionnaire est devenu pas dire l'alpha et l'oméga de l'internet et on en a tous les jours, mais à l'époque c'est vrai que ça nous avait permis d'avoir un éclairage sur les usages des associations sur les logiciels libres.
Je précise que Framasoft, l'association qu'on a citée déjà plusieurs fois, utilise Bénévent Libre, et que CLIS21 qu'on a cité est membre de l'April, et que les flyers d'Emancipasso sont prêts. De tout ça, c'est grâce à Magali en régie.
Alors Framasoft fait même plus que de l'utiliser,
très important.
Ils le soutiennent financièrement, ce qui est vraiment incroyable, quoi. C'est-à-dire que à un moment donné, ils ont eu besoin d'une fonctionnalité dans le logiciel, donc ils se sont dit on va faire ce qu'on préconise depuis toujours, on va financer cette fonctionnalité. Donc ils ont payé directement CLIS21 pour permettre de développer cette fonctionnalité qui va permettre de déplacer ces données pour une association d'une instance à une autre. Alors peut-être qu'il faut que j'explique très rapidement ce que c'est qu'une instance. Une instance, c'est finalement une version installée sur des serveurs. Beneva Libre a été pensé dans une logique décentralisée, ce qui fait qu'une fédération peut choisir de prendre le code source du logiciel Beneva Libre et d'aller l'installer sur ses propres serveurs pour son usage fédératif.
Avec ses propres règles.
Avec ses propres règles, voilà. Donc du coup, Framasoft a dit bah on va commencer à utiliser l'instance 0, la première que CLIS 21 avait installée, et puis dans un deuxième temps, bah, on migrera nos données, et pour migrer nos données, bah il faut la fonctionnalité, donc on subventionne. Et en plus, ils ne se sont pas arrêtés là parce que ça fait trois ans qu'ils subventionnent une fonctionnalité qui permet de faire évoluer le logiciel en fonction des besoins de la communauté.
Et donc, on le rappelle encore une fois, il y a une organisation, une structure, une personne, bref, quelqu'un qui finance un logiciel libre ou une fonctionnalité, et après, tout le monde en profite.
Voilà, c'est ça.
C'est
et
merveilleux.
Du coup, on peut remercier en passant quand même le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui, au départ, avait mis 10 000 euros sur la table, et la Fondation du Crédit Coopératif qui a permis de lancer le projet. Voilà, et on a attendu d'avoir finalement ces financements hein, pour se dire, bah voilà, on a assez d'argent pour commencer le projet. On n'est pas parti à l'envers en se disant, on cherche des sous, on fait un appel à sous, puis après on trouve le projet pour aller avec les
on
sous.
On part des besoins.
On part des besoins.
Exactement. Voilà. Ah, c'est tous les logiciels pouvaient se développer comme ça. On sera heureuse et heureux. Il n'y a pas que ça. Hein, le groupe de travail Libre Association a édité aussi un guide. Tu en étais aussi un contributeur, bien évidemment, le guide Libre Association.
Oui, bah voilà, c'était un peu la suite logique du questionnaire de l'époque où on avait fait, alors à la fois il y avait un catalogue de logiciels utiles aux associations, on citait des logiciels de comptabilité, de graphisme, etc. Et puis on donnait aussi un petit peu de matière pour un discours politique, parce que finalement si on en reste à des questions techniques, à des questions d'utilisateurs et d'utilisatrices, c'est assez limité. Il faut donner aussi des arguments pour pouvoir convaincre la gouvernance associative. Si on fait pas ça, il y a peu de chances que ça fonctionne, parce que ça va être l'envie d'une personne un peu technique de l'association qui va pas être considérée. Donc il faut donner de la matière et faire comprendre aux gouvernances associatives qu'il y a un enjeu pour elles que de migrer vers du logiciel libre.
Et l'argumentaire, on le sait très bien, ça vaut pour tout le monde. Ça vaut aussi pour aider. Par exemple, des élus à militer, à faire des actions importantes pour le libre dans l'hémicycle, donc ou pour convaincre son entourage. Donc, c'est très bien, c'est toujours de trouver des arguments. Et puis, il y a eu une autre action dont j'ai envie de parler, c'est le CERFA en format ODT. C'est un cas très concret, mais c'était une belle victoire, ça aussi, une belle action aussi du groupe Libre Association.
Ah oui, tu me le remémores, effectivement. Pour faire des demandes de subvention, les associations ont besoin de remplir un document. Alors, à l'époque, c'était pas complètement numérisé, c'est-à-dire qu'on n'allait pas sur une plateforme. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus, ces documents téléchargeables. Enfin, j'en ai pas rempli récemment. Mais en tout cas, à l'époque, effectivement, il y avait un canevas à remplir. Et le format qui nous était proposé, c'était un format propriétaire. Donc du coup, le groupe a travaillé pendant l'été pour faire un PDF que l'on pouvait remplir sous un format ouvert à partir de LibreOffice. Et on l'a communiqué après au ministère, qui l'a mis à disposition du site sur la plateforme gouvernementale. Donc ça, c'était plutôt pour montrer comment on pouvait contribuer finalement et faire que ce soit plus simple pour les utilisateurs et utilisatrices.
Une belle satisfaction pour le groupe d'être écouté aussi. Donc moi j'ai envie de faire la pause musicale là, parce que après la pause musicale on va attaquer un sujet très intéressant, une expérience personnelle avec la soi-disant vente, avec la celle qu'on appelle la vente forcée, et donc je préfère justement lancer la pause là. Donc nous allons écouter un morceau choisi justement par notre invité Laurent Costi. Le morceau s'appelle Optimisme par Mindalessi. On se retrouve dans environ 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1. The darkness that is there. So close your eyes and fall asleep. Let your conscience feel the light that resides in you so deep. I
D'écouter Optimisme par Minda Lacy, disponible sous licence libre Creative Commons by SA 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Je suis Isabelle Lavani de l'April. Nous allons reprendre le fil de notre discussion avec notre sujet principal consacré aujourd'hui au parcours libriste de Laurent Costi, vice-présidente de l'April et chroniqueur dans Libre à vous et expert du monde associatif. Je rappelle que vous pouvez participer à notre conversation par téléphone au 09 72 51 55 46 ou sous le salon web dédié à l'émission sous le site causecommune.fm, bouton chat. On va attaquer un grand dossier, la bataille de Laurent Costi contre la vente forcée, ce qui m'a motivée pour intégrer le conseil d'administration de l'April. J'ai même noté. Et donc, vas-y, raconte-nous. Pourquoi cette bataille? Comment ça s'est passé?
Alors, c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même... alors, Microsoft était quand même le grand méchant. Hein. Le libre s'est quand même construit sur en opposition à Microsoft, qui imposait... Enfin, c'était légitime, hein, il imposait tellement à marche forcée sa logique, ses logiciels, que le libre s'est construit là-dessus. Et la FUL, d'ailleurs, a été plutôt... a été un peu novatrice parce qu'au départ, elle soutenait même financièrement un peu les gens qui souhaitaient...
Je rappelle juste qu'il y a la FUL, donc Association Française des Utilisateurs ou Utilisatrices de Logiciels Libres.
Voilà, il soutenait financièrement les gens qui finalement souhaitaient se faire rembourser la licence Windows qui était imposée lorsqu'on achetait un ordinateur. À l'époque, c'était extrêmement compliqué de trouver des ordinateurs neufs sans Windows dessus. À part évidemment monter son propre ordinateur, mais sur les ordinateurs portables, c'était hors de question, ça n'existait pas. Et du coup, ayant besoin d'un nouvel ordinateur portable, j'ai acheté un ordinateur portable. Il y avait Windows dessus et j'ai engagé un procès puisque au départ, j'ai fait une simple demande de remboursement de la licence que je n'utilisais pas puisque j'utilisais un système alternatif GNU Linux. Distribution GNU Linux, et j'ai donc engagé un procès. Et le procès a duré plusieurs années quand même, 3-4 ans je pense au total, et c'est vrai que c'est une expérience un peu traumatisante quand même, hein, parce que, alors déjà ce qui était très étonnant c'est que c'était HP finalement l'opposant. Mon opposant, c'était pas Microsoft. C'est là que je trouve que déjà Microsoft est extrêmement malin parce que finalement il laisse se débrouiller les constructeurs avec ces problématiques-là, alors que la vraie problématique, elle est bien chez Microsoft. C'est-à-dire que ce sont les fabricants qui protègent le contrat qu'ils ont entre Microsoft et eux-mêmes. Du coup. Voilà, j'ai pas gagné ce procès. Je sais que d'autres personnes ont gagné après, un Italien en oui. particulier. Hein,
récemment.
Tu as peut-être les références. J'ai pas gagné ce procès. Il aurait fallu que j'aille en cassation après. Alors Étienne Gonu aurait pu nous expliquer un peu mieux les processus juridiques dans tout ça. Je suis pas très très expert, mais moi j'ai préféré m'arrêter. Parce que finalement, on a des gens qui sont prêts à mettre des moyens colossaux. Moi, évidemment, j'avais trouvé un avocat qui, quand même, un peu spécialiste de la question. Mais HP avait sollicité 3 avocats de la place parisienne, extrêmement bien mieux payés à mon avis que mon avocat, pour aller jusqu'au bout et faire que je ne puisse pas gagner, quoi. De cette expérience-là, je retiens quand même un exemple extrêmement intéressant pour expliquer aux gens que on a toujours quelque chose à cacher. Souvent, les gens sur Internet disent « Ah ben non, moi, pas de problème, j'ai rien à cacher, donc peu importe, c'est pas grave si je laisse filer mes données, mes métadonnées, c'est pas un problème, je fais pas de choses illégales, etc. » Et en fait, dans le cadre de ce procès-là, un des arguments des avocats d'HP, ça a été de dire « Regardez, ce monsieur-là fait des conférences pour le logiciel libre. Donc c'est quelqu'un qui nous en veut, c'est quelqu'un qui est méchant. Et alors que moi, ces données-là, je les estimais positives, qui faisaient la promotion du logiciel libre, vu d'un avocat, c'était du pain béni pour se retourner contre moi. Donc je trouve que cet exemple-là, si je devais retenir une chose de ce procès-là, c'est d'être extrêmement prudent quand on affirme qu'on n'a rien à cacher, parce que finalement n'importe quelle donnée peut vous paraître positive, mais elle peut l'être complètement vue négativement par quelqu'un qui veut les utiliser contre vous. Donc voilà, si on peut retenir quelque chose de ce procès-là, c'est peut-être ça. Voilà. Après,
tu t'étais embarqué dans une sacrée expérience. Hein. Tu avais une idée de l'ampleur que ça pouvait prendre en termes de durée, de stress.
Non, non. C'est pareil. C'est vrai que là on appréhende aussi toute la mécanique judiciaire. C'est vrai que c'est compliqué quand même. Hein. C'est très compliqué, surtout quand on n'est pas de la partie. Il faut un peu de moyens financiers pour avancer de l'argent. Bon. C'est pas à négliger, et c'est pareil, si je suis pas allé en cassation, c'est parce que comparé aux moyens que pouvait avoir HP, à un moment donné je me suis dit je vais pas jouer, ils ont plus de moyens que moi, quoi. Donc là c'est pareil, la perception de la justice dans ces moments-là elle est complexe pour des gens comme moi. Voilà, je vais pas complètement dénigrer le système, mais là ça pose quand même la question des moyens d'aller en justice.
Donc tu n'es pas allé jusqu'au bout et donc tu as perdu parce que tu as décidé d'arrêter le processus.
Voilà, de ne pas aller en cassation, voilà, exactement.
Et récemment, il paraît que tu as acheté un ordi reconditionné, cette fois sans Windows.
Alors non, c'est très compliqué. En fait,
j'ai mal lu mes notes.
On aurait pu, non, mais c'est pas grave, mais on aurait pu penser que cette question-là, elle était derrière nous. Et que finalement ça avait beaucoup changé. Alors ça a un peu changé parce que maintenant on peut réussir à acheter certains ordinateurs reconditionnés sans système d'exploitation. Je parvenais à le faire avec certaines boutiques de reconditionnement, et récemment j'ai été confronté à un changement de condition de leur part. C'est-à-dire que la dernière fois, j'avais demandé un ordinateur en particulier qui avait déjà Windows installé dessus. Je leur dis, je le souhaiterais, mais sans licence. Et ils nous ont dit, d'accord, ok, on vous déduit un montant. Alors le montant, on ne sait pas trop comment ils le déduisaient. Hein.
Comment ils l'ont calculé, tu veux dire. Alors là, ils ont pris en compte le fait qu'il y avait un coût en plus du fait de système d'exploitation qui est installé.
Jusqu'à il y a 3-4 ans, je pratiquais de cette manière-là, et donc je recevais un ordinateur sans licence Windows. Et là, j'ai refait avec une entreprise, alors je sais pas si on la cite ou pas, j'en sais rien. Je l'ai refait avec une entreprise. De toute façon, j'écrirai, je pense, une tribune sur le site de l'April, parce que c'est quand même assez éloquent. J'ai refait avec cette entreprise-là qui m'a dit, là, on peut pas retirer la licence, c'est pas possible. J'ai échangé, mais c'était lunaire, hein, l'échange que j'avais avec eux. Et à un moment, ça s'est conclu par, on peut pas vous communiquer le prix de la licence, quoi. Donc, ils ne peuvent pas communiquer l'accord qu'ils ont avec Microsoft. Ils sont tenus visiblement au secret. Ils sont tenus de tenir la logique de laisser des licences Windows. Ils m'ont dit, on a quelques ordinateurs avec des systèmes d'exploitation libre, donc ce qui est très bien, sauf qu'évidemment en termes de performance ça n'a rien à voir, enfin c'est pas du tout les mêmes objets, quoi. Donc Donc là, là, je pensais en avoir terminé, avoir laissé un peu cette question de la licence Windows dans, derrière moi, et en fait, on s'aperçoit que Microsoft continue d'inonder toute cette logique-là, et puis d'être surtout le plus invisible possible. En fait, les gens ne se rendent même plus compte qu'ils payent des licences Windows, alors que la logique commerciale voudrait qu'on affiche le prix de ce qu'on achète, quoi. Enfin, c'est le minimum d'une logique commerciale pour avoir confiance à qui on achète, etc.
Alors pourtant, la Cour de justice européenne, elle a dit que il ne s'agit pas d'une façon de vendre déloyale, le fait de...
Là aussi, on peut se poser la question du poids de Microsoft. Alors, on va faire du conspirationnisme, mais... Sauf que quand on regarde, par exemple, GAFAM Nation, c'est des journalistes qui ont écrit ce document-là, quand on voit l'investissement en temps et en argent des GAFAM auprès de la Commission européenne, on est en droit de se poser la question de ce poids-là et sur nos lois, quoi. Même s'il y a des députés, il y a des gens qui se battent, etc. De fait, avec de tels moyens humains et financiers, il y a des gens qui vont aller à la facilité, puis qui vont se dire oui, c'est pas un problème important. Et effectivement, par rapport à la faim dans le monde, par rapport à des problèmes de guerre, etc. On peut se dire ça. Sauf que derrière, ça a des conséquences démocratiques de mon point de vue, quoi.
Et sauf que God is law. Comme on le rappelle
voilà,
souvent.
Donc, c'est ça.
C'est pas négligeable du tout.
Voilà. Donc, ça a des conséquences pour nos démocraties, de mon point de vue. On pourrait expliciter, c'est un peu plus long. Hein, le raccourci est un peu trop raccourci, justement, mais il faudrait plus de temps. Mais...
On n'a qu'une heure aujourd'hui. Donc. Mario Dill qui dit virer les lobbies de Bruxelles sur le salon de WeChat. Tu parlais de cette capacité de Microsoft à se rendre presque invisible, indispensable et invisible en même temps. C'est une parfaite transition pour un autre gros dossier sur lequel auquel tu t'es attalé, qui est le dossier Solidatech et TechSoup. Est-ce que tu veux nous en dire plus?
Oui, alors je crois c'était en 2020, j'avais écrit un peu... Enfin, alors, on avait déjà eu une rencontre avec Solidatech. Solidatech, c'est une... Alors, c'est un programme, ça s'appelle un programme, qui émane des ateliers du bocage, qui sont finalement une entreprise d'insertion, qui font un travail incroyable dans les Deux-Sèvres, qui reconditionnent des ordinateurs, qui forment des gens qui ont du mal à retrouver du travail, qui sont dans la sphère Emmaüs, et qui ont donc mis en place... alors mis en place ou qui ont été sollicités pour le faire, moi je dis que c'est plutôt ça, un programme qui s'appelle Solidatech et qui a pour vocation de faciliter le numérique dans les associations. Sauf que quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit que derrière cette structure-là, il y a une espèce de grosse structure américaine qui s'appelle TechSoup, qui finalement en fait fait du soft power américain, quoi. C'est-à-dire
qu'est-ce que tu veux dire par là, soft power?
C'est-à-dire qu'en fait, c'est une énorme structure qui a des partenaires, les gros partenaires de la big tech américaine, Microsoft, Cisco, etc., et qui diffuse du matériel et des logiciels à des ONG partout dans le monde, à des prix défiant toute concurrence. Alors, évidemment, c'est bien parce que ça facilite après l'informatique, le numérique dans ces structures-là. Sauf que évidemment que ça entretient les outils américains dans ces structures-là, quoi. Pourquoi une association s'embêterait à aller vers un numérique plus éthique, à essayer GNU Linux par exemple, si on lui offre une licence Windows à 5,80 €, quoi. Ce qui est réellement le cas quand on passe par Solidatech. Hein.
Et là, à nouveau, l'importance des argumentaires. pourquoi on devrait se tourner vers Microsoft si on sait que c'est des logiciels privateurs et qui ne respectent pas nos données, etc. Et voilà. Donc le fait de mettre des tarifs extrêmement bas, ça risque vraiment de faire pencher la décision
avant même
de se poser les questions, quoi.
C'est évident, puisque les gens sont déjà habitués à ces logiciels-là, ils vont pas passer du temps à changer leurs habitudes. Ce serait trop compliqué. Donc, ils préfèrent effectivement avoir l'impression de faire une excellente affaire parce que la licence n'est que à 5,80 €. Sauf que derrière, effectivement, ils continuent à entretenir un système qui, de mon point de vue, je reboucle avec la question de Bruxelles tout à l'heure, important, mais qui impacte nos démocraties, quoi, et qui oriente finalement une vision du numérique. Alors, peut-être que cette vision du numérique est intéressante. Moi, encore une fois, là, j'ai pas de jugement sur le fond. Ce qui m'importe moi, c'est à un moment donné d'être dans la boucle pour pouvoir en discuter et de mettre dans la boucle des discussions des gens autres que eux, que ces GAFAM-là, parce que c'est eux qui tracent la route du numérique sans qu'on ait le moindre mot à dire, sans qu'on puisse interroger, poser des questions par rapport à ça. Donc il est là le vrai danger, parce que fondamentalement, encore une fois, je pense que ça part de bonnes intentions, mais le poids et l'argent qu'ils mettent après influence trop nos choix démocratiques. C'est ça qui me perturbe.
Sur le web chat, on parle de ça, quand tu dis ça entretient la domination de Microsoft, ça emprisonne les utilisateurs, utilisatrices. La première dose est gratuite aussi. Quand tu parles de licences qui coûtent presque rien. Et moi, j'étais assez étonné du travail d'investigation que tu avais fait. C'était presque du travail de journalisme d'enquête, quoi. J'allais vraiment creuser la question parce que c'était pas facile de savoir ce que c'était Solidatech. Tout était très sous le fond, quoi.
Ouais, il faut creuser pour pas dire de bêtises non plus. Et puis reconnaître, ce serait trop facile de dire c'est mal, c'est le mal, etc. Parce que encore une fois, ce que font les ateliers du bocage, c'est remarquable. Mais effectivement, et je pense aussi que, même les salariés de Solidatech, ne mesurent pas comment ils sont le jeu finalement de TechSoup, de cette grosse entreprise mondiale qui fait un soft power. Enfin, c'est digne de Coca-Cola, hein, qui investissait tous les pays, qui distribuait des enseignes qu'on retrouve au fin fond de l'Afrique, etc. Quoi. On est vraiment là-dedans. C'est extrêmement malin, c'est extrêmement puissant, mais du coup, il faut en avoir conscience pour essayer d'atténuer, de sortir un peu de ça, pour se prendre en main, parce que on parle de souveraineté. Mais si on n'a pas conscience de ça, la souveraineté c'est très rigolo comme mot, mais à part ça, on peut pas en sortir, quoi. On pourra pas se prendre en main, on pourra pas agir, quoi.
Tu veux rappeler comment l'April, nous on préfère parler plutôt de gouvernance.
Oui, alors c'est vrai. Le terme de souveraineté, c'est un terme qui est utilisé par les journalistes. Donc c'est vrai que je l'utilise là. Mais dans l'article qui sortira les jours prochains sur Solidatech Soup, là justement, on fait un peu le mélange. On essaye de nuancer un peu ce qu'est la souveraineté, parce que il peut y avoir aussi parfois un relent de nationalisme, ce qu'on ne veut pas à l'April. Donc on préfère parler de gouvernance partagée, quoi. De maîtrise des outils logiciels qu'on utilise, quoi. Et le libre est une condition nécessaire, même si elle n'est pas suffisante, pour aller vers une gouvernance mieux maîtrisée.
Donc attention, pour les personnes qui sont intéressées à ce sujet, il y aura bientôt une actu diffusée, annoncée sur notre site. Jusqu'à maintenant, tu as été très sérieux, mais en fait, on a abordé des sujets très très sérieux. Mais en fait, si vous écoutez les chroniques de Laurent et Laurette Costi à Corvaillon, La Voix est libre, on rigole beaucoup. Donc c'est cet autre côté de toi dont je voulais parler. Comment est née la chronique à Corvaillon, La Voix est libre, et qu'est-ce que ça t'apporte, cette expérience en plus vécue avec ta fille? Je t'avais pas posé la question.
Comment elle est née? Alors déjà, c'était obligatoire de faire une chronique, hein. Quand on était membre du conseil d'administration, on n'avait pas le choix.
Voilà, à nouveau, on a l'impression qu'on oblige les gens à faire des choses, mais c'est absurde.
Non, bonne question, comment c'est né? Je pense que il fallait monter un programme, et puis du coup ça a été ouvert. Enfin, il y a eu des appels à contribution, évidemment. C'est pas simple, hein, de monter un programme, même une heure et demie de radio. Alors au départ c'était une fois par mois, mais après de manière hebdomadaire, c'est pas simple, hein. Tu es bien placée pour le savoir, Isabella. Surtout en vous répartissant à trois salariés la charge, c'est quand même très très lourd. Donc il fallait aussi trouver des contenus. Et puis je sais plus comment, mais ma fille a bien voulu faire un essai avec moi, et j'en suis extrêmement reconnaissante, parce que enfin si ça n'avait tenu qu'à moi, réécoutez la première, vous verrez à quel point je suis mauvais, hein, alors que Laurette, elle a fait ça toute sa vie, quoi, avec le Zénith. Donc du coup, c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir à faire ça, de manière à peu près mensuelle. Franchement, on se retrouve et c'est vraiment, ouais, on s'éclate bien. Donc tant qu'on s'éclate. Alors on avait dit qu'on arrêterait à la 42e.
Non, moi je n'étais pas au courant. Je suis contre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut faire une pétition contre cette décision. Pourquoi?
Non, mais bon, il y a encore de la marge.
Il y a
encore de la marge. Et puis, mais voilà, mais effectivement, en plus, j'aime beaucoup échanger en amont avec Stéphane Bortsmeyer qui nous fait le grand honneur de relire la chronique à chaque fois, qui donne des très bons conseils. Et puis, ouais, l'échange est vraiment agréable aussi sur ces points-là. Quoi.
Et il trouve beaucoup d'erreurs ou
alors,
ça va mieux?
Au début, c'était très technique. La chronique est plus avance, moins il y a de fond, je pense, moins il y a de contenu, c'est de plus en plus de blagues et de moins en moins de choses dedans, mais donc je pense que Stéphane il n'a pas trop de travail, il a de moins en moins de travail, mais non voilà, on va essayer de faire un peu de cybersécurité là prochainement puisque je sors d'une formation, mais voilà, on va essayer de donner des éclairages et puis peut-être un peu de technique, mais c'est pas toujours simple à la radio d'expliquer des choses techniques.
Et je sais que la chronique aussi ça te demande un énorme boulot, hein. Je crois que tu parlais de 8 heures pour la préparer environ.
Ouais, c'est ça, les premières c'était 8 heures parce que je travaillais beaucoup de questions techniques. Là comme je travaille moins de questions techniques, c'est un peu plus léger quoi, mais c'est ouais, non mais avec l'enregistrement, c'est entre 6 et 7 heures, je pense, ouais, quand même, ouais. Ouais, et le traitement et puis
et je confirme au début il y avait une grosse différence dans la capacité de jeu entre Laurent et Laurette. Laurette était extraordinaire dès le départ, mais je trouve que tu t'es vachement amélioré.
Oh, c'est
là,
gentil,
c'est,
ouais, parce que là franchement encore du boulot, mais
ouais. Magali est d'accord en régie. Et à propos de humour, tu aimes bien l'humour subtil et confidentiel, ouais. Les blagues de deuxième voire troisième écoute, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Non, mais alors ça c'est issu d'un podcast que moi j'ai écouté il y a très très longtemps, qui n'existe plus, qui est très difficilement trouvable sur internet, parce que même sur Web Archive on le retrouve pas forcément, on peut pas charger les épisodes. Ça s'appelait l'improbable podcast, et c'est vrai que eux c'est pareil, faisaient des blagues et ils disaient bah si vous l'avez pas compris ce sera la deuxième ou troisième écoute, quoi, réécouter. Donc ça encourageait finalement à réécouter, à retélécharger. Je trouvais ça plutôt malin, même si effectivement des fois on comprenait pas, on était un peu comme deux ronds de flanc, quoi.
Et des fois si on écoute seulement la chronique sans lire la transcription qui existe grâce au groupe transcription animé par notre merveilleuse Marie-Odile Morandi, on ne comprendrait pas toutes les blagues, peut-être. Il y a des choses qui se cachent dans les...
Même moi, en me relisant, des fois, je ne les comprends pas.
Voilà, exactement.
Et surtout, ce qui est très drôle, c'est que des fois, Laurette, à la chronique d'après, me dit « Ah, j'ai compris la blague de... » Ouais, et ça, c'est très drôle. En général, ça me fait bien rigoler.
Mon collègue Étienne dit qu'il est très fan de la chronique d'Ecosti, père et fille. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent comme lui, au point que cette chronique reçoit une consécration incroyable. Une invitation à performer entre guillemets en clôture de la journée du livre éducatif. Alors la journée du livre éducatif, c'est quoi? C'est une journée qui est organisée chaque année depuis 3 ans par
le ministère de l'éducation.
Oui, le ministère de l'éducation, et notamment par
Alexis Kaufmann,
qui a une mission logiciel libre au ministère de l'éducation. Et voilà, vous étiez surpris quand vous avez reçu cette invitation. Comment ça s'est passé?
Alors ce sera pas tout à fait en clôture finalement, ce sera en fin de matinée après les flashs, après les interventions flash. Mais non, bah oui, c'est alors je savais qu'Alexis Kaufmann écoutait la chronique et il nous avait déjà fait un retour très très positif sur la chronique, donc je pense que ça lui a donné l'idée de nous faire intervenir à Créteil là le 29 mars, je crois que c'est le 29 mars en fin de matinée.
Et c'est déjà fait? C'est déjà prépé la chronique que tu y travailles?
Alors oui, on va parler de logiciels libres et d'éducation.
Voilà, ça me paraît.
Voilà,
c'est pertinent.
Voilà. Non, on n'a pas encore écrit. Non,
et
bah non,
toi, tu es l'auteur. En fait, Laurette aussi contribue à l'écriture.
Alors, c'est vrai, j'écris la majorité, mais quand on fait le premier enregistrement, qui est jamais le bon, en général, c'est à cette occasion-là qu'elle me corrige un peu du vocabulaire, qu'elle met dans sa bouche des mots de vocabulaire un peu plus jeunes ou justement qu'on contraste. Mais oui, elle apporte un peu sa touche.
Oui, parce que certains mots comme souvenance, voilà, j'aime bien les les mots littéraires.
Les vieux mots et les vieilles publicités.
J'ai mis comme point que j'aimerais aborder l'éthique de le do it yourself. En fait, à un bout d'un moment, tu as essayé d'héberger toi-même avec Younorost.
Oui, alors
tu as même fait une émission Libre à vous. Tu as préparé et animé une émission Libre à vous sur ça. Mais pas que. Tu as fait aussi une corde d'émail fait main pour participer au Geek Ferris, qui est un festival de l'imaginaire qui a lieu lui aussi à chaque année à Celles-sur-Cher vers mai juin. Donc, est-ce que tu veux parler de cette envie que tu as de faire par toi-même? Et est-ce que si tu utilises encore Younorost,
ouais, alors faire le lien entre Younorost et la côte de Maï,
oui,
ça va pas être simple,
oui.
Mais
je me suis dit que tu pouvais en être capable.
Okay. Alors Younorost, alors pour le coup, je fais par moi-même, pas vraiment. Hein. Younorost, c'est justement une distribution qui est faite pour faciliter l'installation et la gestion d'un serveur. Et là, je remercie toute la communauté qui développe ça. Je pense qu'il y a beaucoup de Français d'ailleurs. Je pense que c'est une initiative au départ qui est française, mais c'est un projet qui est extraordinaire parce que finalement, on gère son serveur avec des petites briques en disant bah voilà, j'ai besoin de telle application, j'ai besoin d'un cloud, donc j'installe Nextcloud et puis après j'ai une petite brique et je clique sur la brique et je suis sur mon Nextcloud. Nextcloud, c'est donc un cloud alternatif à ce que les gens connaissent sur Google, hein. Je peux déposer des fichiers, partager des fichiers, etc. Je peux avoir un mail, je peux avoir... Il y a un catalogue de plus en plus important d'applications qu'on peut installer avec une interface graphique. Donc c'est extrêmement bien et pertinent pour des gens comme moi.
Tu es pas informaticien?
Non, je suis pas informaticien à la base. Alors de fait, à force, on finit par
devenir geek,
devenir un peu geek et puis avoir quand même quelques compétences. Mais néanmoins, je trouve que ce projet-là est à souligner et extrêmement intéressant. Alors j'ai demandé à une association belge qui fait aussi de l'hébergement de me donner une box, ils appellent ça une brique internet qui permet justement d'héberger cette instance de Younorost. Et puis du coup j'ai mes petits services à moi. Pour l'instant je vais pas dire qu'ils sont en production parce que de temps en temps je rencontre quand même des petits soucis, je suis un peu obligé de les appeler pour voir comment on fait pour remettre en route, mais d'abord ils sont réactifs et puis on finit toujours par arriver à une solution, quoi. Et il faut connaître effectivement certaines techniques. Pourquoi par exemple, quand ça bloque, les logs s'accumulent, donc du coup ça sature la carte, donc du coup ça redémarre pas. Donc, mais tout ça, c'est par l'expérience qu'on l'acquiert. C'est pas forcé. Alors évidemment, en lisant les forums, mais avec leur appui, c'est beaucoup plus facile d'apprendre et de s'améliorer sur ces sujets-là, quoi.
Et pour du coup, il y a pas difficile, comme tu dis, de trouver un lien avec la côte de Maille.
Transition avec la côte de Maille.
Mais ça pèse combien ta côte de Maille pour te déguiser en chevalier qui vient du passé?
Je pense entre 10 et 11 kilos.
Voilà.
Il y avait 15 000 anneaux, je pense, à peu près. Oui, c'est vrai qu'un jour, ça m'a pris. Alors, j'ai toujours été un peu intéressé par le médiéval fantastique. Il y a déjà eu une émission sur le jeu de rôle, mais j'ai fait du jeu de rôle aussi, donc quand j'étais jeune, et le médiéval fantastique m'intéressait pas mal. Et un jour, je me suis dit, tiens, si je faisais une côte de maille, donc il a fallu faire des anneaux, donc prendre du fil de fer, entourer le fil de fer autour d'une tige, après couper les ressorts, entre guillemets, obtenus pour faire des anneaux, puis assembler les anneaux pour pouvoir faire une côte de maille. Ça prend un an et demi, une tendinite, mais bon, parce qu'à force de couper, ça force un peu sur certains muscles, mais après on est fiers. Alors on la sort pas souvent, hein, c'est sûr, en soirée c'est pas évident, pour chercher un emploi c'est pas évident non plus.
C'est pour ça que tu participes toujours quand tu peux au Geek Ferries, ce festival de l'imaginaire dont je parlais, et tu avais imaginé aussi une conférence, une intervention en tant que chevalier.
Oui, alors je suis une fois intervenu aussi en Côte de Maille au Bar Commun qui est dans le 18e, effectivement,
à Paris, oui.
En Côte de Maille, voilà. Oui, parce que ça marque les esprits et puis du coup on peut jouer un peu l'étonnement sur le partage, les communs. Enfin voilà, j'avais monté un petit truc, mais c'était très modeste. Mais c'est rigolo. Ouais.
Donc notre vice-président bien évidemment intervient aussi, c'est l'une des façons qu'il a de contribuer à l'April dans différents événements, en plus de faire toutes les actions qu'on vient d'énumérer. Quels sont tes projets professionnels à venir? Déjà, je sais qu'en ce moment tu te trouves en formation, je crois.
En transition.
J'ai fini
une formation en cybersécurité de 399 heures. qui a commencé fin novembre, puis qui s'est terminé la vendredi. C'est extrêmement intéressant pour appréhender, enfin pour consolider justement des savoirs autodidactes, des savoirs techniques dont je parlais tout à l'heure. Donc ça c'était extrêmement intéressant d'appréhender aussi que la question de la cybersécurité, elle est quand même pensée pour des grosses structures, et que la question du libre, elle est pas complètement appréhendée non plus. Donc c'était vraiment intéressant aussi de confronter un peu ces savoirs là. Je me suis un peu incrusté pour intervenir auprès de mes camarades aussi, pour parler un peu de logiciel libre, parce que il leur manquait quand même cette culture là. Mais ils ont de bonne grâce, ils ont bien voulu m'accorder un petit créneau, ce qui était plutôt intéressant. Mais oui, c'est très cohérent aussi. Enfin, on trouve des cohérences aussi à aller vers le logiciel quand on parle de sécurité, de mon point de vue. Alors, on a eu des débats avec des formateurs qui n'étaient pas complètement en phase avec cette pensée-là, mais ça ouvrait des discussions extrêmement, extrêmement riches et intéressantes, ouais. Et donc, du coup, c'est vrai que depuis vendredi, ouais, j'ai terminé cette formation. Et mon projet, c'est de rejoindre une coopérative comme Copanam, a priori, pour faire de l'accompagnement et de la formation d'associations dans leur transition vers un numérique plus éthique. Donc transition vers les logiciels libres, et puis un système d'information plus émancipé des GAFAM, pour toutes les raisons qu'on a un peu évoquées dans l'émission et qu'on peut retrouver pour beaucoup sur le site de l'April, quoi.
Et pourquoi tu veux rejoindre cette coopérative et pas, par exemple, être indépendant? Comment?
Parce que d'abord, le travail en équipe, le commun m'importe.
Très bien.
voilà, ce qui me fait un peu peur, moi, c'est toujours d'être seul, quoi. Ça m'intéresse pas, en tout cas. Ça m'intéresse pas. Je pense que dans la coopérative, même si évidemment on est quand même une partie seule, il y a des choses à échanger. On est sur un projet commun, quoi, une coopérative.
Ils sont tous, toutes les personnes qui font partie de cette coopérative sont dans le domaine de l'accompagnement, de l'informatique, du numérique?
Non, il y a un peu de tout. Je les connais pas tous et toutes pour l'instant, hein. J'ai encore pas voilà, les premières réunions vont être en mars là, mais il y a à mon avis beaucoup de projets divers. Je tiens juste à souligner que Copanam était présent à la première réunion à la Fondation pour le Progrès de l'Homme pour Bénévalibre Libre en 2016, je crois. Donc c'est voilà, il y a la question du libre et du numérique libre est présente au sein de cette coopérative.
Tu as des oreilles qui vont t'écouter, quoi.
Voilà, enfin j'espère. Oui. Puis il y a déjà des gens qui militent sur ces sujets-là, ouais.
Très bien. Je pense qu'on a abordé tous les sujets qui pour moi étaient que je voulais mettre à l'honneur. Est-ce qu'il y a des messages que tu voulais faire passer qui te tiennent à cœur et que tu voulais profiter de ce temps pour les exprimer?
Oui, j'ai pris deux citations.
Très bien. Il y a beaucoup de citations aujourd'hui. Ouais, mais c'est bien, j'adore.
Ouais, les gens ils parlent mieux que moi en général, donc je préfère les citer.
T'as raison.
Donc il y avait Rabelais qui disait « Numérique sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Voilà, facile, mais assez efficace. Et puis, Louise Michel aussi qui disait « Le logiciel libre est au numérique ce que le syndicalisme est au monde du travail, une conscience ».
I, Louise Michel. Hein.
Oui, bien sûr, vous notez bien le I, parce que sinon on va mal paguer. Voilà, c'était peut-être...
Ça me paraît une bonne conclusion, sauf qu'il nous reste encore quelques minutes.
Alors,
et c'est très bien, parce que comme ça, tu peux partager avec nous des conseils de lecture, podcast,
ce que tu veux. Je vais pas conseiller des choses sérieuses, je peux, hein, les gens peuvent me contacter, je peux leur conseiller des livres sérieux, Shoshana Zuboff, Le capitalisme de survivre, tout ça, enfin, on en a déjà parlé à maintes reprises, j'ai plein d'autres références, pas que celle-là, bien sûr, mais tout ce qui est sur le Framablog, hein, c'est excellent. Hubert Guyot, alors là, il était venu, on l'avait interviewé dans une émission, mais tous ces articles, c'est juste un éclairage extrêmement pertinent, intéressant sur le numérique. Mais plutôt des trucs sympas. En ce moment, je suis en train d'écouter un podcast sur Arte Radio qui s'appelle La chute de Lapinville. Je vous le recommande. Alors, il n'est pas encore complètement fini, mais donc c'est 4-5 minutes par jour. Il poste un épisode par jour, mais voilà.
Ça parle de quoi?
C'est un type qui perd son allocation de pervers narcissique, qui doit du coup se bouger un peu, quoi. Donc c'est un peu compliqué pour lui, pour sa vie. Et du coup, il est obligé de retourner à Lapinville chez ses parents. Et c'est pas simple. Et du coup, il lui propose un programme de podcast thérapie.
Ça a l'air pas mal, oui.
Ah mais... non, franchement, je vous le recommande. J'ai beaucoup rigolé dans le train, debout dans le train en revenant de Dijon hier, parce que le TER était plein, mais ça a atténué un peu la pénibilité du voyage. Mais franchement, je vous le recommande. Ils en sont qu'à 16 épisodes, mais voilà, je vous le recommande.
Écoute, tu l'as tellement bien vendu que Étienne, mon collègue sur le web chat, me dit j'ai pris de l'avance, j'ai commencé à écouter La Chute de Lapinville, excellent. Donc très bien.
Et puis ensuite, alors après, c'était une BD que François Poulain avait beaucoup aimé aussi chez moi, en passant chez moi.
François Poulain, administrateur lui aussi de l'April.
Trésorier de l'April. Et c'est Jean Doux et le mystère de la disquette molle de Philippe Valette.
Mmh. Voilà. Tu peux me dire plus?
Alors, je l'ai pas relu récemment, hein, mais alors déjà le dessin, il est très particulier. C'est un format de BD plutôt en long.
On est à la radio, ouais. On voit pas.
Voilà.
Les gestes.
Je sais qu'il y a une disquette molle dans l'histoire, qui à un moment donné, il décolle la moquette de son bureau et il tombe dans un trou. Enfin bon, c'est voilà. Voilà. Et puis je vais pas spoiler non plus. Hein, faut que les gens regardent ça.
T'as raison.
Et puis après, en termes de BD, pour moi. Moi, c'est toute l'œuvre de Bill Watterson, mais ça c'est plutôt plus ancien. Tout ce qui est Calvin et Hobbes, là,
j'ai vu ça, j'avais les larmes aux yeux. J'adorais moi aussi ce bande dessinée.
Et puis voilà, l'auteur de cette bande dessinée-là, c'est quelqu'un de modeste qui n'a pas cédé au Star System. Moi, c'est quelqu'un d'admirable aussi, alors, qui a une pensée philosophique.
Et Calvin et Hobbes, alors Calvin, c'est un enfant autour de 10-11 ans, c'est ça. On va dire. Et Hobbes, c'est son ami imaginaire, c'est aussi un peluche en forme de tigre.
Ouais,
sauf que quand ils sont seuls, en fait, c'est un vrai tigre.
Voilà, le tigre prend vie et ils ont des aventures extraordinaires.
Ouais, et tu disais comment ça se fait qu'il n'est pas tombé dans le Star System, tu disais?
Non, parce que c'est quelqu'un qui est resté modeste.
Ah, et il a su arrêter aussi. Parce qu'à un bout d'un moment, il a dit je préfère arrêter là parce que je sens que je vais plus avoir des bonnes idées. Donc, je préfère finir quand la BD est encore bonne, de qualité. Et bah, je pense qu'on a fait le tour. Bah, en réalité, on pourrait parler, on pourrait faire plusieurs épisodes, hein, avec Laurent Costi. Mais on a essayé, voilà, de trouver les gros morceaux, les dossiers, les sujets les plus importants en lien avec le libre, notamment. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de parler de ton parcours personnel et professionnel dans la radio. Merci pour ce que tu fais pour l'April et pour le libre en général. Vous avez eu beaucoup d'exemples des actions de Laurent. Une prochaine, du coup, avec une chronique. La prochaine fois, probablement.
Merci à tous et à toutes. J'espère qu'il n'y avait pas trop de Costi quand même dans cette. Faudra qu'on répartisse un peu mieux les prochaines fois.
C'est vrai, c'était le cas.